Bonsoir Annabelle.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Une commission indépendante ne réécrira pas l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale. Le Parlement et le Sénat ont fait reculer le Premier ministre, tandis que la polémique redouble dans l'opinion publique depuis les nouvelles violences policières. 4 policiers ont été placés en garde à vue et suspendus pour le tabassage d'un homme noir. Et un appel à manifestation contre la loi sécurité globale a été lancé pour demain dans plusieurs villes de France et d'Europe. À Paris, la préfecture n'a toujours pas donné son autorisation. Un procès aux assises ne peut pas se tenir en visioconférence. Le Conseil d'État a tranché et le procès des attentats de 2015 devra attendre le rétablissement de l'un des accusés souffrant du Covid pour reprendre. Les salariés de l'usine de pneus Bridgestone à Béthune manifestaient aujourd'hui. Les négociations du plan social ont débuté alors que l'État cherche toujours un repreneur. L'opposant russe Alexei Navalny devant les eurodéputés aujourd'hui, c'était l'une de ses premières apparitions depuis sa tentative d'empoisonnement. S'exprimant en visioconférence depuis l'Allemagne, il a appelé l'Europe à encore plus de fermeté vis-à-vis de la Russie et à frapper au portefeuille les oligarques russes proches du président Poutine. C'est un texte qui tombe bien mal pour le gouvernement. La proposition de loi sécurité globale et surtout l'article 24, tant décrié, il tombe bien mal car depuis plusieurs semaines, les forces de l'ordre sont accusées d'une succession de bavures. La dernière en date, particulièrement violente, a été filmée et choque l'opinion publique et la classe politique. 4 policiers ont été placés en garde à vue, d'ailleurs pour le tabassage d'un homme noir, un producteur de musique. Ils sont entendus pour violence volontaire en réunion avec armes et à caractère raciste. Ils ont tous été suspendus de leurs fonctions. Depuis ces nouvelles violences policières, les critiques à l'encontre de l'article 24 redoublent et le Premier ministre est hésitant, Antoine Maret.
Jean Castex allume un incendie en voulant en éteindre un autre. Hier, face à l'opposition croissante contre l'article 24, il a annoncé la création d'une commission indépendante chargée de proposer une nouvelle écriture, provoquant du coup un tollé chez les pro-article 24, à droite et jusqu'au rang de La République En Marche. Nouveau recul donc du Premier ministre, cette commission ne sera finalement pas chargée de réécrire l'article, elle devra se contenter de formuler des propositions de nature juridique et procédurale. Et en guise de câlinothérapie, Jean Castex va recevoir ce soir les présidents des groupes parlementaires de la majorité, ainsi que la présidente de la commission des lois à l'Assemblée. Ensemble, ils vont échanger sur le périmètre de feuille de route de la commission, un périmètre qui promet d'être très restreint. Georges Clemenceau disait « Si vous voulez enterrer un problème, nommez une commission ». Jean Castex aura commis un exploit, créé un nouveau problème en créant une commission.
Merci Antoine Maret. Et la manifestation contre la loi sécurité globale donc pourra-t-elle se tenir demain à Paris? Pendant que la coordination Stop Loi Sécurité Globale appelle à manifester dans une soixantaine de villes en France, demain donc ainsi qu'à Berlin et à La Haye, pour la liberté de l'information et le respect de l'état de droit, la coordination est composée des syndicats et sociétés de journalistes, mais ces rassemblements devraient rassembler bien au-delà de la profession, avec de nombreuses associations comme Reporters sans frontières, la Ligue des droits de l'homme, ATTAC, et le soutien de nombreuses personnalités intellectuelles du monde de la culture ou encore politiques, Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, la France Insoumise, le Parti Communiste. À Paris, la coordination veut marcher entre République et Bastille. Bonsoir Maxime Tellier.
Bonsoir Annabelle, bonsoir à tous.
Alors pour le moment, la préfecture refuse toujours l'autorisation pour cette manifestation à Paris.
Oui, d'ailleurs, on attend toujours ce soir de connaître le trajet précis du rassemblement parisien. La préfecture de police hier a invoqué le contexte sanitaire pour interdire la marche entre République et Bastille, autorisant seulement un rassemblement statique à République. Les organisateurs ont répliqué en déposant 2 référés liberté auprès du tribunal administratif, dont on attend donc la décision ce soir, déposée par les syndicats de journalistes, par la Ligue des droits de l'homme. C'est une procédure d'urgence utilisable lorsqu'on estime que l'administration porte atteinte à l'une des libertés fondamentales. Et là, ça n'est pas anodin parce que c'est cette interdiction de la préfecture prise hier qui a décidé les syndicats et les sociétés de journalistes à boycotter la réunion avec Jean Castex. Hier, votre loi porte atteinte à la liberté de la presse, ont écrit les syndicats, à la liberté d'informer, d'être informé, à la liberté d'expression. Et maintenant, vous interdisez la liberté de manifester sous des prétextes fallacieux. Le rassemblement qui sera donc prévu demain doit rassembler bien au-delà des journalistes. Plus de 70 associations associations qui réclament le retrait des articles 21, 22, 24 de la proposition de loi sécurité globale, sachant que les articles 21 et 22 prévoient l'utilisation de drones pour surveiller les manifestations et l'instauration de caméras piétons chez les policiers, ainsi que la réécriture, ils demandent aussi, les organisateurs, la réécriture du schéma national du maintien de l'ordre, qui prévoit notamment que les journalistes puissent être arrêtés s'ils n'évacuent pas les rassemblements en fin de manifestation. Le contexte de violence contre des journalistes, d'arrestation de garde à vue, de journalistes de Brut, de Taranis ou de France 3 n'ont fait qu'aggraver la colère. Les rassemblements de demain seront donc là pour marquer le coup à l'issue d'une semaine chargée, dire stop à cette spirale délétère pour la démocratie, comme l'ont écrit les 40 sociétés de journalistes qui ont écrit au Premier ministre hier.
Merci Maxime Tellier. Une manifestation, rappelons-le, donc, qui n'a toujours pas d'autorisation de préfecture. Non, la visioconférence ne pourra pas être utilisée pour les procès aux assises. Le Conseil d'État a rendu sa décision cet après-midi. Cette mesure avait été instituée par une ordonnance controversée du gouvernement qui voulait que la justice tourne malgré l'épidémie de Covid-19. La plus haute juridiction administrative estime que les dispositions prévues par cette ordonnance, qui avait été prise le 18 novembre, portent une atteinte grave et manifestement illégal au droit de la défense et au droit à un procès équitable. C'est une grande satisfaction pour Patrick Spinozzi, l'avocat de l'Association des avocats pénalistes, qui avait saisi le Conseil d'État avec le syndicat de la magistrature.
Le Conseil d'État a rendu une décision courageuse et très importante, et il a refusé que, au seul motif d'une vision gestionnaire de la crise du Covid, on porte atteinte, notre législation porte atteinte à la procédure d'assises et à ses fondamentaux, puisque ce qui était proposé, ce n'était rien de moins que de remettre en cause le principe essentiel de la comparution personnelle de l'accusé en matière d'assises. Et la solution que défendait l'ordonnance était la possibilité de condamner un homme en son absence. Ça n'avait jamais été fait, et le Conseil d'État a veillé à ce que ça ne soit pas le cas, même au cœur de la crise du Covid.
Patrick Spinozzi, interrogé par Anne Fauquemberg. À noter que lors du premier confinement, 167 sessions d'assises avaient été reportées, soit des centaines de dossiers, avait fait valoir le représentant du ministère de la Justice lors de l'audience, la chancellerie, dont on attend toujours la réaction ce soir. Quatre personnes suspectées de responsabilité dans l'assassinat en juillet 2016 du père Hamel dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray sont renvoyées devant la cour d'assises spéciale. Selon l'ordonnance de mise en accusation, les juges d'instruction en charge du dossier renvoient l'un des quatre accusés pour complicité d'assassinat terroriste. Et près de 40 ans plus tard, l'un des auteurs présumés de l'attentat de la rue des Rosiers à Paris en 1982 sera bientôt extradé vers la France. Le gouvernement norvégien a donné son feu vert aujourd'hui. L'enquête de la cellule investigation revient ce soir sur le parcours d'Abdoulaye Ansorov, l'auteur du meurtre de Samuel Paty. Bonsoir Laetitia Chérel.
Bonsoir Annabelle.
Alors beaucoup de choses ont déjà été dites sur les circonstances de ce drame, mais on en sait un peu, pas tellement en fait, sur l'auteur de cet assassinat. Vous avez donc cherché à comprendre quand et comment ce jeune Tchétchène de 18 ans a basculé avant de passer à l'acte.
Alors Abdoulaye Kantsorov est né à Moscou en 2002. Il a 6 ans quand il arrive en France avec sa famille après un passage en Pologne. Son père tchétchène dit avoir fui la Russie par peur de représailles pour avoir aidé des rebelles. La famille obtient le statut de réfugié en 2011 et s'installe dans le quartier populaire de la Madeleine, à Évreux, dans l'Eure. Dans sa cité, ce garçon est qualifié de discret et serviable. On remarque aussi sa passion pour les sports de combat, comme l'explique un jeune de son quartier dont nous avons fait lire les propos.
Il allait à la boxe anglaise à Netreville et à la boxe chinoise du centre-ville. Je le voyais souvent avec son daron qui l'accompagnait, mais il s'entraînait surtout à la salle de muscu au fitness park. Il se donnait à fond, mais je crois que son rêve c'était de devenir un combattant professionnel de MMA.
Le MMA, un sport où l'on s'affronte dans une cage et qui est très populaire en Tchétchénie. Plus tard, on dit aussi d'Ansorov qu'il est impulsif. C'est d'ailleurs à cause d'une bagarre qu'il sera exclu de son lycée professionnel, comme le raconte encore ce jeune.
C'était une bagarre assez violente, avec des coups de pied et des coups de poing. Il y a un maghrébin qui a pris une raclée. Ses parents étaient en colère, mais je sais qu'il y a eu un arrangement avec eux.
Résultat, il arrête les cours et son père le fait travailler sur des chantiers de BTP. Et il semble qu'il y ait là un premier point de bascule. Car à ce moment-là, on ne le voit plus dans le quartier, il s'investit plus dans la religion, disent ses proches. Selon une ancienne enseignante, déjà en classe, il se montrait attaché à l'islam. Il écrivait le nom d'Allah sur son cahier de texte.
Et c'est donc dans les années qui suivent qu'il va se radicaliser.
Oui, et c'est un sujet sensible pour lui. On le voit en septembre dernier, lors d'une prière mortuaire organisée en l'honneur d'un ami tué au cours d'une bagarre. Un des participants fait alors remarquer à Anzorov qu'il s'est radicalisé. Et ça, ça déclenche sa colère, selon le témoignage d'un proche que nous avons fait lire.
Il a giflé un mec, un tchétchène, qui lui a dit qu'il s'était radicalisé. Après, il est allé s'excuser auprès du grand frère du mort parce qu'il a réalisé que c'était déplacé de faire ça dans un moment pareil.
Et cette radicalisation, elle se confirmera dans ses tweets. Il refuse par exemple que des femmes échangent avec lui sur Twitter. Il les traite de femelles.
Mais est-ce qu'il a conçu son projet seul ou est-ce qu'il a subi des influences de l'extérieur?
Alors il faut rester prudent là-dessus. L'enquête a montré qu'il avait effectivement au moins deux contacts en Syrie avec lesquels il correspondait. Il aurait parlé de son père à l'un d'eux, si l'on en croit ce proche dont nous avons fait lire les propos.
Sur son compte Instagram, il avait écrit à son contact à Idlib en Syrie « Mon père n'est pas comme vous à fond dans l'islam ». Aujourd'hui, son père, il pleure. Il est persuadé que son fils s'est fait retourner la tête par ce type en Syrie. Il aimerait bien savoir qui c'est.
Il a peut-être subi une influence de là-bas, mais selon Wassim Nasr, journaliste et spécialiste des mouvements djihadistes à France 24, il n'appartenait pas pour autant à une organisation connue.
Il a écrit son testament 4 heures avant cet assassinat. Donc s'il voulait le faire au nom d'Al-Qaïda, il aurait pu le faire. Au nom de l'État islamique, il aurait su pu le faire. Il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas revendiqué d'un groupe ou d'un autre. Et il n'y a aucun groupe qui a revendiqué son acte.
Il se disait aussi proche du mouvement djihadiste syrien, HTS, sans qu'on sache s'il a eu des liens réels avec cette organisation. Et lorsque Wassim Nasr a appelé son porte-parole, HTS a également démenti avoir eu le moindre lien avec Abdullah Kanzorov.
Merci Laetitia Cherel. Attentat de Conflans, l'itinéraire du tueur de Samuel Paty. Une enquête de la cellule d'investigation de Radio France à retrouver en intégralité sur franceculture.fr. Que va devenir l'usine de Bridgestone à Béthune? Le groupe japonais a annoncé le 12 novembre dernier qu'il mettait la clé sous la porte et qu'il lançait un plan social, un PSE qui ne se déroule pas au mieux. Les syndicats négocient les conditions de départ des 863 salariés, tandis que de potentiels repreneurs viennent visiter l'usine. L'intersyndicale appelait aujourd'hui à une journée d'action. Reportage à Béthune sur le site de Bridgestone, Marie Viennot.
Sur le rond-point à l'entrée de l'usine qui s'étend sur 32 hectares, il cloue des croix en bois façon cimetière avec dessus des numéros.
71-24, c'est nos matricules.
Bizarre quand même, hein. À mort annoncé.
C'est la première fois que l'intersyndicale appelle à une journée d'action et de grève depuis la rentrée et son cortège de mauvaises nouvelles. Mais de grévistes, il n'y a pas. Pas question de perdre un sou pour Bridgestone. Et dans l'usine, la cadence est au ralenti, l'attente interminable.
On vient ici actuellement pour travailler, mais on n'a pas de travail. Demain, je suis du matin, donc je vais prendre mon poste à 5h35. On fait quoi?
Rien.
La nuit, vous dormez sur un banc dans les vestiaires parce que vous n'avez rien à faire. Donc moi, j'appelle ça la destruction psychologique. Maintenant, dans notre tête, pour tout le monde ici, c'est acté. On sait qu'on ne va pas rester. C'est acté. Maintenant, le plus dur, c'est le phénomène d'attente.
Depuis 7h du matin, salariés, retraités, élus, militants syndicaux des alentours s'agglutinent autour des bras zéro entre la grille de l'usine et la route nationale. Le repreneur, c'est l'option qui tient la corde chez les élus de tous bords, de Xavier Bertrand, de LR, à Adrien Quatennens, France Insoumise.
On est en train aujourd'hui, ce matin, on aura encore conférence téléphonique avec un éventuel repreneur. Donc il y aura des projets de reprise ici.
Oui, il y a des repreneurs qui se sont prononcés. Eh bien, il faut tout faire pour que ce repreneur puisse reprendre l'activité dès que possible en maintenant l'emploi.
Mais du côté des ouvriers, il y a un énorme doute.
Il y a deux Indiens, un Turc, un Chinois. Et je suis certain que les régions de Bridgestone met des bâtons dans les roues pour que ce repreneur ne puisse continuer une activité dans le pneumatique.
Le long de l'usine, la CGT distribue un tract intitulé « Bridgestone, trahison for excellence ». Voitures et camions font tous une halte courte. Toujours le même message.
Merci, bon courage à vous.
Merci.
Et la créativité dans la crise, crée-t-on mieux ou moins bien en période de crise? C'est le thème du temps du débat juste après ce journal avec Emmanuel Laurentin. Après la France, c'est au tour du Royaume-Uni de s'attaquer aux GAFAM, les géants du numérique. Pas de taxes cette fois-ci, mais une régulation plus stricte pour protéger les données personnelles et la concurrence. À Londres, Maxence Peignet.
Facebook et Google ont accumulé trop de pouvoir aux yeux du gouvernement britannique qui entend bien imposer un nouveau code de conduite aux géants de l'Internet. Selon Alok Sharma, secrétaire d'État aux affaires, ces plateformes contribuent certes à l'économie et à l'activité sociale, mais leur domination peut avoir un impact délétère. Le Royaume-Uni va donc se doter d'une unité des marchés numériques chargée de réguler les GAFA, notamment sur les données personnelles et la publicité. Elle pourra aussi distribuer des amendes si besoin. Son objectif, installer un régime pro-concurrence afin que les petites entreprises ne soient pas exclues et pour que les consommateurs aient plus de choix sur l'utilisation de leurs informations. L'idée est également de garantir des contrats plus équitables entre les GAFA et la presse. Ces recommandations avaient été faites dès cet été par l'Autorité nationale de la concurrence. D'après elle, Facebook et Google captent 80% des recettes publicitaires en ligne au Royaume-Uni et sont responsables de 40% des visites sur les sites d'information. Google n'a pas tardé à réagir à la nouvelle, se déclarant prête à travailler de manière constructive avec la nouvelle unité. De son côté, Facebook a promis d'aider les journaux présents sur ses réseaux.
L'opposant russe Alexeï Navalny était en visioconférence devant les eurodéputés européens, donc ce matin. C'est l'une de ses premières apparitions depuis son empoisonnement qui avait été vivement condamnée par l'Union européenne. Il a appelé l'Europe à être encore plus ferme et à cibler l'argent des oligarques russes pour affaiblir le président Poutine et ceux qui détiennent le pouvoir. Des oligarques qu'il compare à une bande de criminels. Alexeï Navalny s'exprimait depuis l'Allemagne devant les élus de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen. Compte rendu d'Angélique Boin à Bruxelles.
Le visage est creusé, la fatigue évidente, mais l'opposant n'a rien perdu de sa combativité. Il remercie d'abord les Européens pour le soutien apporté à lui et à sa famille.
Je ne serai pas le premier ni malheureusement le dernier qu'on va empoisonner ou tuer. Et c'est très important pour le peuple russe de savoir que l'Europe ne restera pas silencieuse devant de tels faits.
Mais sur les sanctions, l'Union Européenne doit changer de stratégie, estime Alexeï Navalny. Il n'y a aucun sens, dit-il, à viser des généraux qui voyagent peu ou qui n'ont ni maison ni compte bancaire en Europe. En octobre, Bruxelles a bien sanctionné plusieurs proches du président Poutine, dont le chef des renseignements, avoir gelé, interdiction de voyage dans l'UE. Mais pour Navalny, il faut encore taper plus fort et contre tous les profiteurs du régime.
Tant que le luxueux yacht de M. Ousmanov continuera à mouiller dans le port de Barcelone ou Monaco, personne en Russie ne prendra les sanctions européennes au sérieux.
Les Russes vont bientôt aux urnes, il faut que l'Union européenne dénonce la propagande du régime en s'adressant plus spécifiquement aux citoyens de mon pays. Seule l'Europe, conclut-il, pourra faire évoluer la situation.
L'attente et l'angoisse en Éthiopie. Il s'est maintenant écoulé 48 heures depuis l'annonce de l'offensive sur Mekele, la capitale provinciale du Tigré. Et toujours, aucune information ne filtre sur l'avancée des combats dans le nord, où les télécommunications sont encore coupées. Depuis le 4 novembre dernier, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed mène une opération militaire dans cette région, le Tigré, haut lieu culturel et économique du pays. Addis Abeba, les efforts continuent pour tenter d'empêcher un bain de sang. L'Union africaine rencontrait ce matin le Premier ministre éthiopien dans une ultime tentative de médiation. Noé Ochebaudin, il semble que la médiation de l'Union africaine ne soit toujours pas la bienvenue.
Comme promis, les trois émissaires de l'Union africaine ont été reçus par Abiy Ahmed ce matin à Addis Abeba, avec pour objectif de convaincre le Premier ministre d'arrêter son avancée sur Mekele, promise à un bain de sang. Abiy Ahmed continue de refuser cette initiative. Dans une rhétorique qu'il utilise depuis près de 15 jours, il répète que le Tigré est une affaire strictement nationale. Il refuse par ailleurs que les émissaires puissent se rendre au Tigré pour rencontrer les leaders du TPLF. Difficile de savoir ce qu'il se passe à Mekele aujourd'hui. La ville de 500 000 habitants serait calme à l'heure qu'il est, selon des sources diplomatiques, et les combats seraient situés à une quarantaine de kilomètres, sans que l'on puisse vérifier ces informations. À Mekele, de longues files de voitures laissaient présager une pénurie d'essence. La province, toujours sous blocus militaire et humanitaire, pourrait aussi ne plus avoir de réserve de nourriture à partir de lundi, assurent les Nations Unies. Malgré plus de 10 jours de négociations, le gouvernement empêche toujours les ONG de porter assistance aux populations tigrènes. Des camions remplis de tonnes de nourriture et de médicaments sont pourtant prêts à prendre la route depuis Addis Abeba. Et l'UNICEF a tiré la sonnette d'alarme en annonçant qu'environ la moitié des habitants de la province étaient en besoin d'assistance humanitaire.
On termine ce journal avec deux mots de météo. Vigilance orange dans les Pyrénées-Orientales et la Corse pour risque d'orage et d'inondation. Ailleurs, le temps demain reste instable. Les températures iront de 6 degrés dans le nord à 18 dans le sud.